C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Charles Chaplin, 1899-1977. Cinéaste britannique, hétérosexuel, devenu riche grâce à son art. Œuvre Un roi à New York, 1957. Personnage Le roi Shadoff, interprété par Charles Chaplin. Il y a toujours eu dans Chaplin une part de sentimentalité très voyante qui l'a fait aimer du plus grand public. C'est même elle, sans doute, qui l'a rendu mondialement célèbre. Je pense au Kid, aux Lumières de la ville, un enfant, une jeune aveugle. On pouvait se persuader que ces films étaient consolants. Et, comme ils contenaient des touches d'humour, il était possible de les croire anodins, gentiment anodins. C'était oublié dans ces films même le personnage de Charlot et ce qu'il était. Un petit teigneux, se servant parfois de sa lâcheté pour se venger. Comme dans toute gloire, il y avait un énorme malentendu dans celle de Chaplin, du créateur, qu'on confondait avec son personnage, pas même son personnage, une simplification de celui-ci. Le grand public, outrant la part sentimentale, effaçait les courts-métrages antérieurs avec le combatif Charlot. Et quand, à la fin de sa vie, Chaplin a, comme à ses débuts, mis de côté la part sentimentale, il a été détesté. C'est venu avec Monsieur Verdoux, son très spirituel film qui pourrait d'ailleurs être de Jean Renoir, extrapolé de la vie de Landru. Chaplin semblait trahir Charlot. Chaplin aimait l'Amérique, si tant est qu'aimer un pays veuille dire quelque chose. Venu d'Angleterre, il avait triomphé à Hollywood, le Hollywood de forain des années 1910. Il y avait ouvert ses propres studios, où il pouvait créer à son goût et selon ses besoins. Et puis, les jaloux, et puis, les envieux, et puis, les mythes. Ils l'ont harcelé. Comme souvent dans ce pays, cela a commencé avec des histoires de mariage et ce qu'on appelle les mœurs. Il avait épousé une femme beaucoup plus jeune que lui et qui se trouvait être la fille d'un dramaturge célèbre, Eugène O'Neill. Cela avait déplu, il se poussait du col. Un bouffon épousait une princesse. Ça n'est pas selon le populairement correct. Et le harcèlement a monté jusqu'au délire. On l'a accusé d'avoir fait un enfant hors mariage. Comme il se trouvait en Angleterre, le ministre de la Justice américain a révoqué son permis de séjour, lui imposant de passer un entretien relatif à son comportement politique et moral, mais oui, s'il voulait revenir aux États-Unis. L'Empire perdait son empire, Chaplin n'y est jamais revenu. Alors, comme on l'avait beaucoup embêté, Chaplin a écrit un film de vengeance, et qui est mieux qu'un film de vengeance, Un roi à New York, où il interprète le roi Shadow renversé par une révolution qui se réfugie à New York. Qui est le roi Shadow? Pour en parler, je reçois Jean Narboni, historien du cinéma, dont le plus récent livre est Samuel Fuller, un homme affable chez Capricci. Jean Narboni, à quoi ressemble le roi Shadow?
Le roi Shadow, c'est un homme de petite taille, pas très corpulent, mince plutôt, qui a largement passé la soixantaine, à la chevelure abondante, blanche, très blanche, bien mis, même portant beau, assez fringant, élégant, et dont la vivacité d'esprit et de répartie est restée intacte. Il est filmé d'assez loin pendant toute la première partie du film, ce qui fait qu'on ne voit pas ses rides sur le front, sur les joues, son menton qui commence à devenir un peu plus flasque, ses cernes ou poches sous les yeux, qu'on verra dans la deuxième partie, quand il sera filmé de plus près, et qui seront abordés de façon extrêmement précise et cruelle.
Est-ce qu'il y a une intention dans cette deuxième partie qui devient tout d'un coup plus proche et plus cruelle?
Tout à fait, c'est-à-dire à partir du moment où il est emporté dans la machine publicitaire du pays d'accueil, ou d'accueil, si on peut appeler ça un pays d'accueil, on lui propose une publicité sur les hormones, et la personne très fringante qui lui propose cette publicité trouve qu'il faudrait le rajeunir de quelques 20 ou 30 ans, et lui propose donc de la chirurgie esthétique.
Il a aussi un accessoire qui n'est pas sans importance, c'est sa toque d'Astrakhan.
Il a une toque d'Astrakhan, c'est un roi. Les premiers plans du film exposent très brièvement les petits inconvénients de la vie moderne, à savoir parfois une révolution. On le voit partir et donc arriver aux États-Unis, et il garde tout de même quelque chose de princier dans sa façon de se comporter avec les gens du bureau d'immigration, ensuite avec son ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur américain. Donc il garde quelque chose d'aristocratique, et sa toque plaide pour sa royauté antérieure. Alors ce qui se trouve aussi très intéressant, c'est que ce personnage ressemble terriblement à Charles Spencer Chaplin. Et c'est d'ailleurs lui qui joue le rôle du roi dans le film et qui met ce film en scène. Et Charles Spencer Chaplin a mis à peu près 40 ans pour se rejoindre, c'est-à-dire pour ressembler à lui-même. Il lui a fallu donc, au cours de ces 40 années, se débarrasser par des mues provisoires dont on pourra peut-être parler, mais très précises, du personnage qu'il a mythifié, à savoir le personnage de Charlot. Il est enfin, et pour la première fois entièrement, adéquat à lui-même dans ce film.
Je crois, mais je me trompe peut-être, qu'il avait pensé interpréter le rôle du roi sous l'aspect de Charlot dans un premier temps.
Il l'a envisagé. À partir du moment où le cinéma est devenu parlant, il s'est posé la question de savoir si le personnage de Charlot était encore acceptable, opérant et viable. Et il a mis tout de même entre le dictateur qui date de 1940 et un roi de New York qui date de 57, tout de même 17 années à s'en débarrasser totalement. Il l'a fait par partie, on peut en reparler.
Non, mais parlons-en.
Dans le dictateur, André Bazin a repéré quelque chose et qui a donné lieu à des lignes magnifiques de ce très grand critique. Bazin parle du moment où, à la fin, le barbier juif, qui est le sosie d'Hinkel, Hitler, est appelé à parler et fait son grand discours universel sur la paix. Et Bazin décrit, sous le masque lunaire de Charlot encore, en surimpression, apparaît une personne avec des boucles grises tout à coup, des rides, c'est-à-dire que la personne de Charles Spencer Chaplin apparaît sous le masque de Charlot, et Bazin commente, je crois, en substance, je me trompe peut-être sur les termes, cet essai de photographie ou de psychanalyse photographique reste un des hauts moments de l'histoire du cinéma universel. Dans Monsieur Verdoux, apparemment, il disparaît complètement, mais le même Bazin s'est rendu compte qu'à la fin du film, quand il part de dos avec sa chemisette blanche en trottinant avant d'aller à l'exécution, Bazin constate que les États-Unis ont cru se débarrasser de Landru ou de Verdoux, et ils ont en fait tué Charlot. Ah. Donc on a encore Charlot qui subsiste. Dans Limelight, c'est tout à fait autre chose. Il fait un flashback qui remonte au début du siècle à son père, pratiquement. Mais le personnage du clown est présent. Et dans Un roi de New York, pour la première fois, Charlot disparaît.
Et pour la dernière d'ailleurs, car dans La Comtesse de Hong Kong, il ne sera pas là.
Absolument pas. Chaplin n'y apparaît que épisodiquement.
Alors, que se passe-t-il exactement ? Donc, ce roi est en exil, il arrive à New York, et vous l'avez évoqué, très rapidement, il se fait piéger dans un dîner publicitaire télévisé.
Voilà. Donc, il découvre un univers qui est absolument pas le sien, et très progressivement, ça commence par une séance de cinéma, puis un restaurant, et il est entraîné dans une machination publicitaire, c'est-à-dire un grand dîner auquel il finit par accepter de se rendre parce que la personne qui a manœuvré pour obtenir qu'il vienne à ce dîner est assez charmante, c'est l'actrice Dawn Adams, et il se trouve complètement piégé dans ce dîner, c'est-à-dire que bon, si les côtières américaines, Elsa Maxwell ou Eda Hopper qui avec les Américains qui sont là et qui sont évidemment ravis de voir arriver un roi, même détrôné. Il est assis à côté de la charmante Dawn Adams et qui tout à coup se met à tenir des discours étranges sur les déodorants, le dentifrice, à sa grande surprise. Dawn Adams avait préalablement mis au point un piège avec un caméraman de télévision qui était masqué et qui devait donc enregistrer à l'insu du roi ses séances. Il est d'ailleurs invité, ça c'est très important, à un moment à se produire théâtralement, parce qu'on sait qu'il est assez bon acteur, et il récite le fameux monologue de d'Hamlet, il demande si il doit le faire de façon anémique ou au contraire extravertie et violente. Il opte pour la deuxième possibilité et il est interrompu par un fracas de vaisselle, je crois, exactement à un moment où dans la tirade de To Be or Not To Be, il prononce le mot conscience.
D'ailleurs, on voit tout de suite que c'est un film qui satirise la passion de l'argent américaine, puisque dès la première fois où le roi sort dans la rue, on entend dans la rue une chanson qui dit « Quand je pense à 1 000 000 $, les larmes viennent aux yeux ». Mais c'est au-delà de ça, il se moque aussi de la culture dans cette scène d'usurpation publicitaire dans le dîner dont vous parliez. En voyant un tableau, il s'adresse au maître de maison, il lui dit « Est-ce un Gréco ?» Le maître de maison lui dit « Non, c'est un Philippin ». Il lui dit « Je veux parler du tableau. Je ne sais pas, ma femme l'a acheté dans une vente publique ».
Oui, bon, visiblement, Chaplin règle des comptes avec les États-Unis, puisqu'il a vécu longtemps là-bas, il n'a jamais pris la nationalité américaine, et comme vous l'avez dit dans votre texte d'introduction, sur le bateau qui le conduisait en Europe pour la première des feux de la rampe, il apprend tout à coup que son visa de retour est suspendu et qu'on lui demande de passer devant une commission s'il veut revenir aux États-Unis. Et tout au long du film, le Chaplin, ce qui est très intéressant, on en parlera peut-être, c'est que c'est fait de façon très précise, très aiguë, mais sans passion triste, sans méchanceté, sans ressentiment. Est-ce qu'on peut régler des comptes ou se venger sans tomber dans le ressentiment? Je trouve qu'il est réussi. Tout au long du film, tous les aspects de l'Amérique dont il a eu à souffrir sont présents. Dès le départ, quant au service d'immigration, on prend ses empreintes digitales. Il y a une photo célèbre où, à un moment où il était accusé, comme vous l'avez rappelé, d'avoir une liaison avec John Barry, on a pris ses empreintes digitales et tout le film est émaillé d'éléments que Chaplin a plus ou moins connus ou vécus, y compris d'ailleurs le premier moment est une séance de cinéma où l'ambassadeur l'entraîne, il est frappé par le bruit en disant « il y a plus de bruit dans la salle qu'à l'extérieur ». Donc on sait que Chaplin a longtemps résisté au son et au parlant. Et ensuite, bon, le cinémascope, le rock, les films violents, etc., etc.
Est-ce que ça n'est pas précisément les Jean d'Arbony, ces deux passages-là dont vous parlez, le cinéma où il y a une séquence publicitaire assez drôle où on projette un film, un tueur avec une âme, vous allez l'adorer, venez en famille.
Voilà.
Bon, et aussi le rock. Et un petit peu la chirurgie esthétique dont il se moque, est-ce que ce n'est pas des moments où Charlie Chaplin vieillit un peu et est un peu vieux schnock? Est-ce que c'est si grave? Je comprends qu'il règle ses comptes avec le, et on va y revenir sur le macartisme, l'Amérique et ça, mais ça, est-ce qu'il n'est pas un peu vieux monsieur, là? Vous ne direz pas ça?
Ça a été dit. J'y résiste.
Il se moque aussi, ce roi Chadov, d'une religion populaire américaine qui est le golf. C'est tout à fait en passant, mais moi ça m'a beaucoup amusé. Son conseiller lui dit, vous parliez de Hamlet qu'on lui fait répéter, on va dire que vous êtes fou en roi jouant Hamlet, et lui répond, j'imagine que pousser une balle dans un trou est plus sain, je préfère Hamlet au golf.
Oui, oui.
Et bien ça, il attaque l'égalitarisme sportif américain.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, sur le plan de l'égalitarisme, après son passage triomphal à la télévision, puisque ce désastre pour lui se retourne en triomphe, il est abordé dans un restaurant par un Américain qui lui présente son épouse, qui veut un autographe et qui lui dit « Vous êtes un véritable démocrate, je vous ai vu à la télévision hier ». Vous étiez formidable.
À propos de ce dîner, il y a une scène de restaurant où, me semble-t-il, mais c'est vous qui êtes le savant et qui allez me le dire, où Chaplin fait un signe à Charlot. Est-ce que je me trompe ou à un moment, un des serveurs de restaurant reprend des éléments de la chorégraphie de Charlot, garçon de café?
C'est possible.
On le voit avec le plateau trébucher un peu comme...
C'est possible.
Est-ce que c'était l'habitude de Chaplin de se citer comme ça? Pas tellement.
Hein. Ah, ça lui arrive, oui.
Ça lui arrive, oui.
Mais d'ailleurs, dans cette scène, lui-même reprend de façon extrêmement brève et virtuose, parce que le film frappe par sa concision, sa brièveté et son refus du sentimentalisme qui lui a été reproché ou qui a donné à son succès dans la période de Charlot. Il y a deux ou trois moments quand il n'arrive pas à se faire comprendre du maître d'hôtel pour sa commande. Il demande d'abord du caviar. Il y a tellement de bruit que l'autre n'entend pas. Et il lui imite la façon dont on extirpe le caviar, et ensuite une soupe à la tortue, et il imite très très bien avec une assiette et ses doigts la tortue. On retrouve le Charlot de la rue Verlord.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la musique composée par Chaplin lui-même pour son film Un roi à New York, qui date donc de 1957. Jean Darboni, nous avons parlé de la satire sociale et culturelle du roi à New York par le roi Chadov, mais il y a encore plus important dans ce film, c'est une double critique politique. D'une part, la moins importante, et nous parlerons de la plus importante juste après, la première qui était cruciale à l'époque, c'est l'énergie atomique.
Oui, le roi Chadov donc est chassé de son royaume, je crois qu'il s'appelle l'Estonia ou quelque chose comme ça.
L'Estrovia.
Parce que on lui reproche de dépenser l'argent public en vue de la réalisation de ce qu'il appelle son utopie tout au long du film, c'est-à-dire une utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non pas à des fins guerrières. Et quand il arrive aux États-Unis, d'ailleurs, il essaye de placer vainement ce projet de cette utopie qui consisterait à utiliser l'arme atomique à des fins pacifiques. Chaplin a d'ailleurs participé à des rencontres du mouvement de la paix où il a pris parti pour ce genre d'usage de l'énergie nucléaire. Donc ça, c'est un point sur lequel il était extrêmement ferme, c'est-à-dire le refus de l'arme atomique.
C'était probablement encore plus prégnant à l'époque, car le film est sorti en 57. Il faut pas oublier qu'on sortait presque à peine de la guerre de Corée, qui s'était fait. Hein, c'est ça, c'était
absolument.
Un sujet très...
Absolument, absolument.
Alors, la deuxième partie très importante politique du film, et même essentielle, c'est le maccartisme. Le maccartisme n'est jamais nommé en tant que tel dans le film, mais c'est bien cela dont il s'agit, et il s'incarne d'abord par une rencontre avec un petit garçon que le roi rencontre dans une école.
Oui, il y a d'abord une scène très drôle, c'est qu'on lui fait visiter... Même en tant que roi déchu, c'est tout de même un roi, donc il est invité partout, et on lui fait visiter une école d'avant-garde progressiste. Là, c'est très intéressant, enfin, l'idéologie de l'enfant au centre. Hein. C'est-à-dire, on laisse les enfants absolument hors de tout contrôle pour épanouir leur personnalité, etc. Donc l'autorité n'existe plus. Les professeurs sont là à regarder avec adoration ce que font les élèves, qui sont évidemment insupportables, qui n'arrêtent pas d'agresser, d'envoyer des boulettes sur le roi, et il rencontre là un enfant qui est son propre fils, Michael Chaplin, qui est un des plus beaux personnages, les plus déchirants personnages de l'histoire du cinéma, qu'on oublie souvent dans l'énumération des enfants inoubliables du cinéma. On parle souvent de Edmund dans l'Allemagne à des héros de Rossellini, qui est extraordinaire, l'enfant de Moonfleet de Fritz Lang, mais celui-là est assez peu cité, et je trouve qu'il était absolument magnifique. Donc dans un premier temps, il est insupportable avec le roi Chadov.
Il coupe la parole.
Quand le roi arrive en lui disant « qu'est-ce que vous lisez ?», il lui dit « je lis Karl Marx ». Bon, évidemment,
oui. Chaplin... Et puis avec l'index tendu, il lui fait une grande démonstration. Il s'appelle Rupert.
Voilà, il s'appelle Rupert. Et il donne des leçons de politique, comme visiblement sur fond anarchiste. Hein. C'est-à-dire une partie d'ailleurs du discours que Chaplin, en tant que tel, pourrait lui-même... tenir sur les monopoles, sur le pouvoir, sur l'autorité, sur les gouvernements, sur le fait qu'on ne puisse pas se déplacer sans passeport, etc. Donc Chaplin place dans la bouche de cet enfant un certain nombre de discours qu'il pourrait tenir. Mais en même temps, Ils ont l'impression que d'être conscient que ces discours devenus propagande à leur tour sont nocifs. Plus tard, cet enfant insupportable, il le retrouve dans le froid, crevant de froid,
devant
son hôtel, et se demande ce qui se passe. Les premières répliques sont assez hostiles de la part du roi. Et l'enfant lui dit qu'il a quitté l'école, etc. Donc on apprend que l'enfant est le fils d'un couple de communistes. Ces communistes sont convoqués devant la commission des activités anti-américaines. Et donc il a quitté lui-même l'école parce qu'on ne cessait de l'interroger pour savoir si ses parents étaient communistes, s'il pouvait donner des noms de parents, d'amis de ses parents, etc.
Parce que ses parents eux-mêmes avaient refusé de donner des noms d'autres communistes.
Voilà. Et Shadow le recueille. Et dans sa chambre, ensuite, il y a toute une série d'événements qui se passent relatifs à cette histoire d'accusation de communisme. Et à la fin du film, Chaplin est lui-même sommé de se rendre à cette commission. Là, il y a toute une série de gags parce que son doigt est coincé dans
un tuyau d'incendie.
Un ascenseur. Donc, il arrive au Congrès, il est immédiatement accusé d'outrage au tribunal. Il les arrose, il les blanchit ou il et il est finalement lui-même lavé de tout soupçon. Ce qui est absolument tragique, c'est qu'avant de quitter ce pays dont il ne peut mais pour rejoindre la France, qui est un pays que Chaplin a toujours beaucoup aimé. Il veut rendre visite à l'enfant qui est retourné, qu'il a réexpédié dans son école, en lui promettant de venir le voir. Et il trouve un enfant morne, silencieux, défait, effondré, qui sourit à peine quand il lui offre des cadeaux avant son départ, qui finit par se jeter dans ses bras, ça c'est tout à fait bouleversant, et qui finit par lui dire que pour que ses parents ne fassent pas leurs 2 ans de prison auxquels ils ont été condamnés, il a lui-même, cuisiné par le FBI, dû donner le nom des amis de ses parents. Et c'est un moment poignant. Et là, François Truffaut avait écrit sur ce film en disant que les gens qui reprochaient à Chaplin de ne plus pouvoir faire pleurer ou rire se trompaient, parce que si Chaplin avait voulu refaire le kid avec cette scène, il l'aurait fait. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il en avait fini avec ce cœur ignoble de Charlot, comme disait méchamment et injustement André Suarez, du Chaplin, du kid et autres.
Et à la fin, après ça, donc il y a cette scène déchirante où l'enfant est détruit par son aveu terrible. Et à la fin, le roi Shadow part. Mais ça n'est pas une happy ending, parce que malgré tout, il laisse cet enfant détruit derrière lui.
Il lui promet de le faire venir quand il sera à Paris avec ses parents. Et ça semble rasséréner un peu l'enfant. Mais enfin, c'est très bref. Le film est extrêmement rapide, très concis. Enfin, il est décidé d'entrer à la pointe sèche et les scènes vont très vite. Et cette chose, cet abandon, je me demandais moi-même en le revoyant récemment, je me disais, mais tiens, il laisse l'enfant dans cet état de désarroi. Oui. Il y a une phrase où il lui dit, je te ferai venir avec tes parents. C'est bref, mais c'est dit.
Alors, il faut dire que ce film, Chaplin ne l'avait donc pas tourné aux États-Unis, mais en Angleterre, et il a fallu, je crois, 15 ans pour que le film puisse être montré aux États-Unis.
Oui, parce que le film a été vécu comme une véritable injure, et il a été d'ailleurs assez mal reçu dans le monde, sauf en France. En France, les Cahiers du cinéma à l'époque l'avaient classé, je crois, toutes tendances confondues, premier parmi les films de l'année. Et Rossellini, ça Godard, écrivant un jour sur Charles Chaplin en disant que c'était le plus grand, avait dit que Roberto Rossellini, à la sortie d'une projection, de la projection de Roi à New York, avait dit c'est le film d'un homme libre.
Une des causes qu'on a eu pour ce film aux États-Unis tient probablement à ce qu'il attaque la politique, le moralisme américain hypocrite, mais dites-moi si ça n'est pas aussi le fait très frappant qu'il le fait en attaquant New York, alors qu'aux États-Unis, New York est la ville qui se prétend être la plus libre, la plus européenne, la moins américaine. Et là, il attaque même le cœur de la prétention américaine.
Je n'y avais pas pensé, mais c'est possible. C'est possible, oui, parce qu'évidemment, il ne parle pas de Washington, il parle de New York.
Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est presque de convention d'attaquer Los Angeles, mais New York est intouchable.
Bien sûr, non, il va au cœur de la chose.
Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure au début, c'est un film sans amertume, c'est un film où Chaplin prend congé, où on pourrait presque penser qu'il prend congé du cinéma aussi. Est-ce qu'à l'époque, on ne l'a pas pensé?
Mais on l'a pensé souvent. Limelight est un film où Calvero meurt. Et Bazin avait écrit un très long texte en disant, voilà quelqu'un qui décrit sa mort, il n'y reviendra plus jamais, mais il va vivre encore un bon nombre d'années. Donc, c'est un petit peu comme Ingmar Bergman, quoi. Chacun de mes films est le dernier, mais il y en a toujours un qui vient après.
Dans une conférence de presse sur le film, qui date du 24 octobre 1957, Chaplin dit, je le cite, « Je crois que ce rire, celui que provoque le roi à New York, je crois que ce rire, dans la mesure où il est provoqué, ne l'est pas par des américanismes, mais plutôt par les temps modernes en général. » On dirait qu'il avait un peu envie de se protéger en disant « Non, je n'attaque pas l'Amérique, mais la modernité. » Il se trouve que c'est quand même en Amérique que ça se passe.
Oui, bien sûr. Bon, il était à la fois très courageux, hein, ces films le prouvent,
bien
le dictateur
sûr,
à celui-là, y compris ses attitudes publiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'était pas suicidaire, quoi. Donc sur l'aspect anti-américain, je dis non, c'est plutôt une satire amusante, je n'ai pas voulu être trop violent. Mais le film, d'ailleurs, est très précis, puisque plusieurs fois dans le film, tant Down Adams qu'à la fin, le directeur de l'école et le roi Shadow dit « Nous espérons que c'est un mauvais moment à passer ». Et quand le film sort, et au moment où il est réalisé, 56-57, on est pratiquement au moment où le sénateur McCarthy est écarté. Donc, il ne vit pas ça comme une essentialité des, enfin, il ne donne pas ça comme une essentialité des États-Unis, mais comme un moment affreux qui est le moment du McCarthyisme.
On dirait que vous venez de donner une définition de la politique américaine. C'est une série de mauvais moments à passer.
Voilà, absolument.
Le McCarthy, George Bush, voilà, Donald Trump.
Il y en a beaucoup, oui.
C'est ça. Et d'ailleurs, à la décharge de Chaplin dont j'évoquais une éventuelle prudence, dans la même conférence de presse, il dit quand même une nation qui serait composée de mouchards, ou tout au moins où ceux-ci seraient en majorité, risquerait de détruire, de perdre la civilisation dont ils ont bénéficié jusqu'à présent.
Voilà, on peut mieux dire.
Jean Narboni, que vous a appris le personnage du roi Shadow?
Beaucoup de choses, mais en premier lieu, essayer de vieillir sans être amer. C'est ce qui est dit, en substance, pas tout à fait dans ces termes, à la fin de La Dame de Shanghai d'Orson Welles, et c'est repris par Godard dans Le Petit Soldat, vieillir sans être amer. Donc, on a là un personnage qui a tout de même, il est né en 89, le film est de 57, donc il a 68 ans. Il s'en prend à un pays. C'est quand même un cinéaste qui attaquait deux régimes, deux pays ou deux régimes. L'hitlérisme, le macartisme, donc l'Allemagne et les États-Unis. Et c'est la question que je vous posais, quoi. Est-ce qu'il est possible de régler des comptes? Est-ce qu'il est possible de se venger sans sombrer dans les passions tristes? Je pense que le roi à New York, y parvient. En plus de cette question du vieillissement, il y a beaucoup de choses, la bienveillance, l'indulgence, une curiosité, un effarement indulgent devant un monde qui vous échappe un peu. Voilà, ce sont des choses qui sont des leçons de vie. Et sans pathos et sans propagande.
C'était Personnage en personne, le 78e. Dans la prochaine émission, je parlerai du personnage de Francine Evans, créé par Martin Scorsese dans New York, New York.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, prise de son Manuel Couturier.
De ma vie, le paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi, tous les jours.